Vous écoutez RTL.
Jusqu'à 15h, Jacques Pradel sur RTL, l'heure du crime.
Et bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver. C'est une nouvelle édition de l'heure du crime avec Perrine Suquet, avec Margot Agnès. Aujourd'hui, c'est Philippe Duval qui est aux manettes techniques de notre émission. Et à la une, vous l'avez entendu, c'est vraiment du rififi au pays du rap. Hein. On dit que la musique adoucit les mœurs. Le rap, en tout cas, pas vraiment, puisque tout le monde a encore en tête ce qui s'est passé, ce qu'on rappelait tout à l'heure avec Christelle Rebière et Vincent Parisot, c'est-à-dire cette expédition punitive le lundi 21 avril au soir dans un magasin de vêtements appartenant à Booba et donc son grand concurrent, celui qui clash le plus, comme on dit, avec lui depuis pas mal de mois, voire peut-être d'années, est en détention provisoire en ce moment, et il a été mis en examen pour cette affaire. Alors, on va en avoir le cœur net ensemble pour aller plus loin, évidemment, avec deux spécialistes vraiment de la question. Le premier, c'est Olivier Cachin. Il vient d'arriver dans ce studio. Il est journaliste, écrivain, spécialiste du rap. Bonjour Olivier Cachin.
Bonjour Jacques.
Et donc, avec vous, on va essayer de comprendre un petit peu ce que veut dire cette agression. Mais en même temps, on va garder en tête qu'on n'en est pas quand même aux assassinats, aux feux rouges, comme on va le raconter ensuite, hein, avec le rap américain. Bon, et puis dans quelques minutes, on rejoindra en ligne Alexandre Jordanov. Il est journaliste également. Il est réalisateur de télévision et bientôt de cinéma, parce qu'il est en train de réaliser un documentaire un documentaire vérité, hein, avec des témoignages sur les énigmes et les zones d'ombre qui continuent à courir 18 ans après les assassinats à 6 mois d'intervalle de Tupac Shakur et celui qu'on appelle Notorious Big, mais vous venez de me dire en entrant dans le studio qu'on l'appelait
Biggie Smalls.
Biggie Smalls. Parce que voilà, c'est le petit Biggie qui fait 140 kilos, non, c'est ça?
Voilà, qui avait une tête absolument étonnante et une voix qui n'était pas moins.
Voilà, ils sont morts tous les deux, l'un à 24 ans, l'autre à 25 ans. Ça a été un vrai drame, et ça a fait évidemment la une de l'actualité, et ça continue donc à faire parler encore. Alors tout de suite, on va juste se rafraîchir la mémoire, c'est pas loin, c'était donc le 21 avril dernier, et on va écouter un document RTL. C'est Damien Delceni qui raconte dans RTL Matin comment le bras de fer à distance qui mettait en rivalité les deux chanteurs de rap a soudain dérapé en plein Paris.
On est passé de la parole aux actes. Vers 18h hier soir, plusieurs hommes ont fait irruption dans la boutique de vêtements Uncut dans le quartier des Halles à Paris. Uncut, c'est la marque du rappeur Booba. Le magasin est saccagé et surtout un jeune vendeur de 19 ans est passé à tabac, coup de pied, coup de poing. La victime est transportée dans un état grave à l'hôpital où elle se trouve toujours ce matin entre la vie et la mort. Les policiers, eux, cherchent à identifier le groupe à l'origine de cette expédition punitive. Des témoins disaient hier soir avoir reconnu le rappeur Rof, qui s'est rendu lui-même à la police dans la nuit. Alors vous le disiez, la rivalité entre les deux chanteurs est vive. Pas plus tard que dimanche soir, Booba lui-même avait expédié un message sur les réseaux sociaux à destination de son rival, l'invitant à le retrouver à Paris. Une invitation en forme de défi qui semble donc s'être très mal terminée hier soir.
Ouais, il faut ajouter que le jeune homme agressé, donc qui a 19 ans, est sorti du coma. Il a été interrogé par les enquêteurs. Alors Olivier Cachin, maintenant expliquez-nous comment des rivalités d'artistes peuvent déraper à ce point.
Alors ce qu'il faut déjà préciser, c'est que le rap, qui est une musique populaire venue de quartiers souvent très pauvres, né aux États-Unis, a cette dimension du clash depuis le début. C'est-à-dire qu'en fait, en quelque sorte, le rap est une musique qui est un exutoire, une façon de sortir des terribles réalités de la vie et en quelque sorte de mettre dans le théâtre musical une violence qui est bien réelle, celle des quartiers, dans les mots. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une forme d'exorcisme, si vous voulez. Donc, dès le début, il y a des rappeurs qui vont se clasher, qui vont s'affronter verbalement pour la suprématie de la place de numéro un, dire je suis meilleur que toi, j'ai des plus grosses chaînes en or, des meilleures rimes, des plus beaux vêtements. Et donc
c'est sincère ou c'est du marketing?
C'est du théâtre. C'est-à-dire que ce sont des gens qui sont souvent pauvres, qui ont, en tout cas pour les premiers rappeurs, qui n'ont pas du tout les moyens qu'ont maintenant les artistes aujourd'hui. Le rap au début, c'est une musique qui est vraiment une musique de quartier. Donc cette façon de dire je suis le meilleur, bien sûr, c'est une façon de contrer la pauvreté réelle de ces gens. C'est pas du tout, au départ, c'est vraiment pour dire voilà, je suis le meilleur, et cette violence qui est dans la rue, je la transmets ailleurs que dans la réalité.
Voilà, c'est ça. Alors là, on va illustrer tout de suite ce que vous dites avec un bref extrait. On pouvait pas passer à côté de la chanson Wesh Zoulette de Rov, qui s'adresse dans cette chanson, vous le savez, vous la connaissez par cœur, à Booba.
Moi, c'est 1 300 000 albums, les chiffres mentent pas. 1 500 000 singles, essaye de faire ça. Arrête de thug life, Tupac se retourne dans sa tombe. Kerry n'a pas cité ton nom, qu'est-ce que tu me racontes? Même 30 condamnations, mais you ne font pas les pierres. Un glorifiant a exhibé son petit casier judiciaire. Vrai n'a rien à prouver, t'as pas grandi dans le texte.
Alors, il faut décoder un peu. Hein. Il dit, à un moment, il dit, arrête le thug life, Tupac se retourne dans sa tombe. Ça veut dire quoi, ça?
C'est-à-dire qu'en fait,
thug life, c'est quoi?
Thug life, c'est la vie de voyou. C'est-à-dire que de tout temps, depuis les débuts du rock'n'roll, les voyous ont fasciné les artistes. Donc, thug life, c'était une expression de Tupac, la vie de voyou, donc une espèce de fantasme d'être cette espèce de super bandit.
Il était tatoué, je crois, Tupac, avec cette inscription.
Thug life était effectivement en énorme sur son ventre. Ouais. Ça a d'ailleurs été coupé en deux pendant l'opération après qu'on lui ait tiré dessus. Ouais. Donc, d'où la légende. Donc, effectivement, c'est Thug Life. La légende, parce qu'en fait, si vous voulez, quand on lui a tiré dessus, c'était le 6 septembre et il est mort le 13, une semaine après. Donc, beaucoup de gens ont pensé qu'il n'était pas vraiment mort. Fait, c'était parce que, si vous voulez, c'était comme la résurrection du Christ et son dernier album, il était crucifié sur une croix en couverture. Enfin, bon, il y a toute une légende qui entoure tout pas, qu'on aura l'occasion d'en
parler.
Qui continue, bien sûr. Et donc, si vous voulez, Thug Life, c'est d'une référence à Tupac. Tupac est un artiste qu'admire beaucoup à la fois Booba et Ruff. Oui. Donc, Ruff reproche en quelque sorte à Booba d'avoir réutilisé cette légende-là et dit que Booba n'était pas légitime. Bon,
D'accord, mais enfin, on est dans ce que vous appelez donc le clash. Mm-hmm. Jusque-là, tout va bien, quoi. Je veux dire, partie du paysage, et on serait même étonné qu'il n'y ait pas de clash musicaux. Il y a aussi des vidéos sur Internet. Ça va assez loin quand même dans l'injure.
Disons que les réseaux sociaux ont amplifié cette rivalité entre rappeurs, parce qu'au début il y avait effectivement des chansons, tel artiste va faire un morceau disant tel autre est nul, je suis meilleur que lui. Ouais. Maintenant avec les réseaux sociaux, ça se passe au quotidien. On va effectivement, comme le rappelait votre journaliste tout à l'heure, il va y avoir des posts sur Instagram, Twitter, Facebook, ce que vous voulez, d'un artiste qui va dire voilà, ce que tu as fait nul, poster une photo. Donc tout ça est vraiment en temps réel maintenant.
Alors vous avez été très vite interviewé après cet événement, parce que vous êtes vraiment un grand spécialiste du rap, et votre première réaction, vous avez dit, je l'ai noté parce que j'ai revu un peu le dossier là pour préparer l'émission, ce qui s'est passé est vraiment lamentable.
Oui, parce que si vous voulez, autant jusqu'à présent, vous parliez de marketing, et c'est vrai, et moi je trouve que c'est très bien si on parle de marketing, de la violence, dans le sens où ça n'est pas de la violence, mais c'est, comme je vous le disais, du théâtre, puisque le rap est une musique qui vient de quartier où la violence est réelle, donc ça peut être amusant, certains peuvent trouver ça nul, c'est leur droit, mais cette lutte entre les artistes, c'est une émulation. Puis c'est lamentable. Ce qui est lamentable, c'est qu'on change de terrain et qu'on soit plus dans la musique, mais dans le fait divers, et que ça soit quelqu'un qui, en plus, n'a rien à voir avec l'histoire, qui se retrouve à aller à l'hôpital.
Mais vous êtes bien d'accord, après on parlera d'autres choses, mais vous êtes bien d'accord, Olivier Cachin, que là, c'est deux personnes parmi d'autres, c'est pas une raison pour stigmatiser, puisque le mot est à la mode, l'ensemble des chanteurs de rap, quoi.
Bien sûr,
ils sont aussi étonnés que nous, non?
Plus que le mort qu'il y a eu au festival d'Altamont dans les années 60 a fait que les Rolling Stones étaient complices de mort. Tout ça ne doit pas rejaillir sur des artistes comme, alors il y en a plein, Aurel San, Youssoupha, Maître Gims, DC's, qui n'ont rien à voir avec cette violence-là.
Qui sont des gens très bien et qui sont des artistes, effectivement, qu'on peut continuer à aller voir sans arrière-pensée. Alors, on va faire une pause. D'ailleurs, si vous avez un avis sur la question ou des questions à poser à Olivier Cachin sur ses rivalités dans le rap, vous pouvez nous appeler au 3210 pour les coups de téléphone ou nous envoyer des courriels sur rtl.fr. On se retrouve dans quelques instants.
Jusqu'à 15h, Jacques Pradel sur RTL.
L'heure du crime.
Et vous avez tous noté depuis le début de cette émission qu'en fait, Rififi, dans le monde du rap, ça se dit clash. Voilà, donc on va parler de cette rivalité entre les différents groupes, les différents artistes, et parfois des artistes qui sont vraiment au top, encensés, qui ont tous leur public, qui vendent les disques par millions. Et on va maintenant parler de la même chose, mais au pays où le rap est né, c'est-à-dire aux États-Unis. On va continuer à le faire avec Olivier Cachin, donc qui est journaliste et qui est un des grands connaisseurs du rap, mais aussi de la musique en général, on peut dire, puisque votre dernier livre que je voulais signaler, c'est Le Funk et moi, avec DJ Kéops, c'est chez Glossem, voilà. Et puis on va joindre tout de suite, d'ailleurs, Alexandre Jordanov, qui est en ligne. Bonjour Alexandre Jordanov.
Bonjour Jacques.
Alors, merci d'avoir pris, je crois que vous êtes en montage en ce moment, enfin, merci d'avoir pris quelques minutes cet après-midi. Je voudrais dire que vous avez co-réalisé avec Carl Zero un documentaire sur Tupac Shakur, dont on parlait, qui s'intitulait Tupac, l'assassinat d'une icône, qui a été diffusé en 2011 sur 13e rue, dans l'émission de Carl Zero. Et vous êtes en train de préparer, là, actuellement, un documentaire pour le cinéma et pour les États-Unis, parce que votre enquête vous a permis de dégager peut-être de nouvelles hypothèses sur le mystère qui plane encore sur l'assassinat des deux rappeurs dont on va parler. Ça, on y viendra dans un instant. Mais d'abord, j'aimerais bien que vous me parliez de cette ambiance telle qu'on peut la vivre vraiment sur le terrain aux États-Unis, parce que vous avez été en colocation, vous, avec un rappeur américain il y a pas mal d'années de ça.
Oui, on était très très jeune, hein. J'avais 17 ans et mon colocataire s'appelait Ice-T. En fait, on avait ouvert une boîte de nuit et je l'avais retrouvé, il habitait dans le garage de sa tante puisqu'il n'avait plus de parents, il était orphelin et il était venu habiter avec nous et d'autres musiciens qui sont devenus les Chili Peppers plus tard, et nous habitions tous dans le même appartement.
Et Ice-T, il est devenu comédien maintenant, non? Je sais pas s'il continue à faire du rap, ou il joue la comédie également?
Oui, là, il est devenu acteur. Reality show, il a sa série télé.
Bon, alors, dites-moi, cette ambiance, on la prend vraiment au sérieux, comment ça se passe? Est-ce que c'est ce que je posais la question à Olivier Cachin tout à l'heure, est-ce que c'est pas du marketing qui dérape? Ça va plus loin que le marketing?
Dans certains cas, oui. Dans certains cas, à l'époque, et encore aujourd'hui, je crois, ça, bien que ce soit les paramètres aient changé au niveau des gangs. Oui. Mais à l'époque, oui, s'ils prenaient... On avait en permanence des hélicoptères au-dessus de notre quartier, ça tirait dans tous les sens. C'est un peu plus que une bande de mecs qui arrivent dans un magasin pour taper un gamin de 19 ans. Hein.
Ouais, c'est vraiment autre chose, et on peut laisser sa peau, quoi.
On peut laisser sa peau, après ça continue en prison. Certains allaient en prison parce qu'ils tous leurs copains ils avaient plus d'amis en prison que dehors, donc comme ils s'embêtaient, ils faisaient une connerie pour aller en prison. Enfin, ça allait assez loin.
D'accord. Ils se faisaient incarcérer carrément pour aller régler leurs comptes dans les prisons.
Le L.A. County Jail était un repère de tous les gangs de la ville. Oui. C'est vrai.
Alors, on va revenir à vous tout à l'heure pour parler de l'enquête quand même et des deux assassinats. Je voudrais d'un mot d'abord, Olivier Cachin, si vous pouvez nous présenter les deux personnage dont on va beaucoup parler, donc ce fameux Notorious Big, Biggie Small, et Tupac Shakur.
Alors c'est deux personnages fascinants, d'abord parce que comme souvent, au départ, avant de devenir ennemis, ils sont amis, ils sont très proches, parce que Tupac, s'il en est venu à représenter la côte ouest, Los Angeles, la Californie, donc ce qu'on a appelé le gangster rap, un rap assez brutal et violent, avant, son premier nom d'artiste, imaginez, c'était MC New York. Parce qu'il est né à New York, il est New-Yorkais d'origine. Sa mère, Afeni Shakur, était une militante des Black Panthers. Oui. Et pour vous dire la dimension légendaire, parce qu'on est aux États-Unis, Tupac est quelqu'un qui était en prison avant même sa naissance. En effet, sa mère a été en prison quand elle était enceinte. Ouais. Donc c'est ce qu'il a dit plus tard. J'étais déjà incarcéré avant de naître.
Et il s'appelle Tupac. Sa mère lui a choisi
Tupac
son père.
Tupac Amaru Shakur, voilà, du nom d'un
d'un révolutionnaire péruvien, je crois.
Exactement, voilà. Donc son destin était en quelque sorte marqué avant même sa naissance. Ouais. Et c'est quelqu'un qui était qui est quelqu'un de très ambigu, parce que c'est à la fois on retient beaucoup son côté extrêmement violent, son côté gangster de la fin, mais il faut quand même savoir que c'est aussi quelqu'un qui a fait des très belles chansons, notamment Dear Mama, Keep Your Head Up, des chansons qui célébraient la femme, qui étaient des chansons extrêmement respectueuses et très belles. Donc c'est quelqu'un qui a deux visages, celui qu'on connaît le plus, qui est celui de quelqu'un d'assez brutal dans ses paroles, ouais, mais aussi quelqu'un qui était très doux et qui, si vous le regardez, était plutôt séduisant, avait un côté presque féminin.
C'est quelqu'un de très intelligent.
Extrêmement intelligent et qui a beaucoup travaillé, puisque vous le rappeliez tout à l'heure, il est mort très jeune à 25 ans, mais il a enregistré des centaines et des centaines de morceaux et il a fait beaucoup de choses.
Ouais. Alors, on va faire une pause, on parlera ensuite de Biggie Small, et puis on en viendra avec Alexandre Jordanov à cette enquête. Bah, vous nous direz aussi ce que vous pensez, vous, de ces assassinats, parce que tout le monde a un peu un avis sur la question, puisque l'affaire n'a pas été résolue. Dans des circonstances d'ailleurs terribles, puisque je crois que même l'enquêteur, mais Jordanov te dira ça tout à l'heure, l'enquêteur de la police, on lui a dit un jour, bon bah c'est bien là, maintenant ton enquête tu l'arrêtes, quoi. Voilà.
Oui.
Et il vous a raconté ça. Voilà, il vous a raconté ça à l'image, plein pot, et on va revenir à ça dans un tout petit instant. À tout de suite.
Jusqu'à 15h, Jacques Pradel sur RTL, l'heure du crime.
Et on retourne aux deux assassinats à 6 mois d'intervalle aux États-Unis entre septembre 1996 et mars 1997 de deux icônes du rap américain de la côte Est et de la côte Ouest, Tupac Shakur, donc qui, dans des circonstances qu'on va rappeler tout de suite avec Olivier Cachin, est mitraillé, fusillé dans sa voiture à Las Vegas. Et puis ça se passe le vendredi 13 septembre, un vendredi 13, 1996. Et Notorious Big, lui, il va être tué dans la nuit du samedi au dimanche 9 mars 1997. Et alors, on va penser, mais ça on y viendra un peu plus tard, Olivier Cachin, on va penser que, en fait, la mort de Notorious Big est un peu le retour de boomerang des amis de Tupac Shakur, persuadés que Notorious Big avait commandité l'assassinat de leur idole. Comment ça se passe, ce fameux vendredi 13 ? Il va d'abord à un match de boxe,
oui,
je crois.
Alors, hein. En fait, le vendredi 13, c'est la date de la mort, parce qu'il est resté dans le coma pendant
5 jours avant.
Voilà,
alors,
c'était 6 jours avant. Donc, en fait, effectivement, il y a Tupac Shakur qui va avec son boss, qui s'appelle Suge Knight, qui est le patron de son label. Alors, le label s'appelle Death Row Records, les disques du couloir de la mort. Donc, vous voyez, on est dans le gangster rap. Donc, ils vont voir effectivement un match de Mike Tyson à Las Vegas. Match très rapide, puisque Mike Tyson,
90 secondes.
Voilà, le point de Mike Tyson ne fait pas dans le détail. Ils sortent donc de la salle. Ils rentrent dans une voiture et là, il y a une photo qui est absolument saisissante, parce que, imaginez, il y a un paparazzi qui est là, qui prend une photo de Tupac, qui rentre dans la voiture.
C'est vraiment la dernière photo.
C'est la toute dernière.
De lui vivant,
c'est quelques poignées de minutes avant sa mort. Donc, Tupac regarde l'objectif avec l'air, avec des grands yeux ronds, comme ça. Comme s'il savait, c'est terrible cette photo, parce qu'on a l'impression qu'il sait ce qui va lui arriver. Il referme la portière, la voiture démarre, au premier feu il s'arrête, il y a une voiture qui vient se garer sur la droite.
Donc ils font 50 mètres, quoi.
Voilà, une voiture vient se garer sur la droite, donc à côté de la voiture, mitraille effectivement avec une arme automatique les passagers. Tupac est atteint de plusieurs balles, très sévèrement blessé. Il est emmené aussitôt à l'hôpital de Las Vegas. Il est mis dans un coma induit vu la gravité de ses blessures. Ouais. Et il va effectivement décéder quelques jours plus tard, le vendredi 13 septembre, sans avoir repris conscience. Et ça sera effectivement le début de la fin pour Notorious Big, puisque cet autre rappeur qui lui était en guerre donc avec Tupac Shakur depuis déjà de longs mois, après avoir été ami, puisque c'était deux complices, ils avaient même enregistré ensemble quelques années auparavant, va lui mourir à Los Angeles
6 mois plus tard.
Pour la petite histoire, moi je devais le rencontrer, il devait venir en Europe pour faire des interviews, il devait partir prendre l'avion moins de 2 jours après, il partait le lundi je crois, j'avais rendez-vous pris le mercredi, évidemment rien de tout ça n'avait lieu, puisqu'il puisqu'il est mort dans la rue à la sortie de l'Automotive Museum. Pareil, tué par des mystérieux assassins qu'on n'a pas retrouvés et qui l'ont mitraillé et qui l'ont laissé pour mort sur le trottoir.
Mais lui, c'était l'icône de la côte Est, Notorious Big, et Tupac Shakur, c'était l'icône, on va dire, pour simplifier les choses, de la côte Ouest. Alors, je reviens vers vous, Alexandre Jordanoff. Les hypothèses, c'est un règlement de compte dans le milieu du rap, un clash qui va plus loin que les autres, au départ. L'enquête.
Biggie, oui. Je pense que c'est un retour de bâton au meurtre de Tupac. Alors, il y a un policier que j'ai rencontré il n'y a pas longtemps. Il s'appelle Monsieur Kaling, qui menait une enquête sur. Il a commencé par mener une enquête sur le meurtre de Biggie, mais assez vite, les deux affaires s'entremêlent. Ouais. Et lui, a interviewé, a piégé, a écouté pendant 7 ans quasiment. Ils ont 7 ans d'écoute de tous les intervenants, que ce soit des membres des Crips, des membres des Bloods, des Suge Knight, des Death Row, des procureurs véreux, des flics. Enfin, ils ont une vue assez complète de l'histoire. Et à un moment donné, il interroge un membre de gang dans une espèce de brasserie qui s'appelle Grill Blatz à Los Angeles, qui lui a dit que Puff Daddy, effectivement, lui a offert de l'argent pour tuer Tupac Shakur. Donc, il semblerait, c'est quasiment, on a retrouvé des lettres de prison de différents intervenants, notamment un dénommé Pucci, Pucci qui est un Blood, qui, contrairement à ce qu'on a cru, au départ, on a cru que c'était un membre de la Nation de l'Islam qui avait tué Biggie Smalls. En fait, c'est un dealer de méthamphétamine Bloods, puisque c'était également un business parallèle de Suge Knight, les méthamphétamines, qui effectivement aurait conduit une fameuse Impala noire, et c'est lui qui aurait tué Biggie Smalls, apparemment.
Oui. Alors, attendez, je vois réagir Olivier Cachin, vous voulez rajouter quelque chose là.
En fait, je crois que ce qu'il faut préciser pour les auditeurs, c'est que
Puff Daddy, on mélange un peu les choses quand on connaît pas bien le
Puff Daddy dont parle Alexandre, c'était le patron de la maison de disques Bad Boy, qui était la maison de disques de Notorious Big. Donc l'ennemi le chef si vous voulez, parce qu'il y a deux rappeurs et derrière les rappeurs, il y a les patrons des maisons de disques qui sont Suge Knight, le patron des disques du couloir de la mort, et Puff Daddy de Bad Boy Records, label de Notorious Big.
D'accord.
Alors c'est des histoires quasiment de mafia, Suge Knight avait 40 flics il payait 40 flics, deux procureurs, son associé dans Death Row, et c'était la famille des Genovese, c'était la mafia américaine.
Ouais, d'accord. C'est-à-dire que là, on est loin du rap français, on peut le dire. Hein. On est très très loin.
On est très très loin de Ruff et de Booba, oui.
Ouais. C'est-à-dire qu'on a des personnages qui incarnent, évidemment, auprès du public, une icône, quoi. Comme donc ceux dont on parle là, Tupac et Notorious Big. Mais en même temps, il y a tout un système derrière ces gens-là qui fait que vous voulez dire qu'ils investissent leur argent dans des activités parallèles qui touchent au grand banditisme ou à la criminalité organisée.
Oui, ici, il y a une grande part de frime. Hein. Ils adorent leur film culte, c'est Scarface. Ils veulent, ils veulent absolument ressembler à Scarface. Il y a beaucoup de ça aussi. Hein. Ouais. Une fois qu'ils ont, ce pouvoir financier, ce pouvoir de pouvoir surveiller la police, oui, ils en font des tonnes après. Il y a pas mal de ça aussi.
Alors, on va faire une pause rapide. On va se retrouver tout de suite après, parce que je sais qu'il va falloir vous libérer dans quelques minutes, je crois, Alexandre Jordanoff. Donc, on va revenir quand même. J'aimerais bien que vous me racontiez dans quelles circonstances on vous a raconté au cours de votre enquête. C'est ce que vous allez reprendre dans le film, je crois, qui va être diffusé aux États-Unis maintenant, la suite de votre enquête, que vous nous expliquiez comment on en arrive à imaginer que le FBI ait pu fermer les yeux sur l'assassinat de Tupac Shakur par peut-être des policiers ripoux. Enfin, c'est une histoire assez complexe. J'aimerais bien que vous nous aidiez à démêler les fils dans un instant.
L'heure du crime sur RTL.
Et nous revenons donc sur l'assassinat de Tupac Shakur, ce célèbre rappeur de la côte ouest des États-Unis qui meurt à l'âge de 25 ans le 13 septembre 1996 après une fusillade qui a eu lieu quelques jours auparavant à Las Vegas. Avant de reprendre notre conversation avec mes invités, je voudrais qu'on écoute un document RTL tout de suite après l'annonce officielle de la mort de Tupac Shakur sur RTL. Notre correspondant aux États-Unis à l'époque, Jérôme Godefroy, revenait sur l'antenne, évidemment, sur le parcours, on va dire, agité d'une des plus grandes vedettes américaines du rap.
Une immense fresque sur un mur de New York, elle a été peinte pendant le week-end après l'annonce de la mort de Tupac Shakur. Il y a le portrait du rappeur et ses quelques mots. Il a vécu le flingue à la main, il est mort flingué. On peut lire aussi cet appel signé de l'auteur de la fresque. Arrêtons la violence. La mort de Tupac Shakur a secoué les quartiers noirs d'un bout à l'autre du pays, de la côte est à la Californie. Shakur était un enfant né de père inconnu dans le Bronx, à New York. Sa mère avait été militante du groupe activiste des Panthères Noires. À l'âge de 10 ans, Shakur déclarait « Je serai un révolutionnaire ». Et c'est dans la musique que Tupac Shakur trouve un moyen d'expression au point de devenir, à l'âge de 25 ans, l'une des grandes voix du gangsta rap, une culture à part entière, un mélange de revendications et de férocité, un éloge de la confrontation physique très macho, souvent chargé d'un mépris insultant pour les femmes. Parmi les nombreux tatouages sur la poitrine de Shakur, il y avait celui d'un pistolet automatique et sur son avant-bras gauche, ce slogan « Je suis un hors-la-loi ». Et c'est vrai que les règlements de compte, les bagarres, les menaces, les fusillades ont émaillé la courte vie de Shakur. Il avait fait de la prison pour violence sexuelle comme son héros, le boxeur Mike Tyson. Shakur venait d'ailleurs de voir le récent combat de Tyson à Las Vegas lorsque sa voiture a été prise en embuscade et mitraillée. La police locale n'a pas de piste, mais il s'agit probablement d'un nouvel épisode de la rivalité entre les rappeurs de la côte ouest et les rappeurs de la côte est qui se déchirent et qui s'entretuent par l'intermédiaire des gangs urbains. Shakur était obsédé par la mort, comme en témoignent deux titres de ses chansons, « Enterrez-moi comme un gangster » et « Combien de temps vont-ils porter mon deuil ?»
Voilà, donc à l'époque, Jérôme Godefroy qui a décidé de faire son papier en mettant en fond sonore...
California Love, qui est un des plus gros succès de Tupac, produit par Dr. Dre, le fameux.
Ouais. Alors, on va revenir pour quelques instants maintenant, parce qu'il faut le libérer après avec Alexandre Jordanov. Donc, je rappelle que vous avez fait ce premier documentaire il y a quelques temps, qui était il y a quelques années. Et puis là, vous êtes en train de compléter ce documentaire et d'en faire un film qui va être diffusé au cinéma aux États-Unis. Et la trame de votre film, Alexandre Jordanov, c'est ça, c'est l'énigme de ces deux morts ou vous travaillez uniquement sur Tupac Shakur?
Alors les deux assassinats sont liés
de toute façon, oui, d'accord.
C'est un espèce de update de tout ce qu'on sait déjà avec notamment ce policier qui arrive, qui a d'ailleurs publié un livre qui est sorti il y a à peu près 6 mois, qui révèle pas mal de choses. Il y a beaucoup de témoins, notamment la femme de Shug Knight, qui est une témoin qui a un nom de code qu'on a finalement réussi à rencontrer. Et puis il y a aussi, comme vous disiez tout à l'heure, l'implication ou pas du FBI.
Qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus alors? C'est quoi votre intime conviction, vous qui connaissez le dossier par cœur? Qui tue ce fameux soir, un feu rouge, Tupac Shakur?
Dans ce genre d'histoire, le FBI a les mains propres. Hein, par contre, ce qu'on a...
Mais on a dit qu'il était sous surveillance et que...
Le FBI était sur le toit de...
Voilà, il le surveillait ce soir-là aussi.
Du reste, en face de... En tous les cas, en ce qui concerne Biggie, de l'Automotive Museum, quand il se fait tuer, il y a tout du FBI. J'ai rencontré l'agent du FBI qui prenait les photos. Mais... être directement impliqué, c'est très compliqué. Par contre, une bande d'écologistes avait braqué un des bureaux du FBI il y a quelques années pour trouver des manuels. Et il faut savoir que Tupac a raconté à plusieurs de ses amis qu'il voulait faire de la politique à partir de 30 ans. Ouais. Et dans le manuel du FBI, il dit dès qu'il y a une montée d'un messie, l'apparition d'un messie potentiel qui soit écologiste, pro-black, hispanique, anti-immigration, ce que vous voulez, En général, on met ce leader-là et son rival l'un contre l'autre et on s'en débarrasse comme ça, on a les mains propres. Donc c'est le bien, il s'écrit noir sur blanc. Ouais. Maintenant qu'ils aient monté Biggie et Tupac l'un contre l'autre en lui chuchotant à l'oreille pendant que Tupac était en prison dans l'État de New York pour une autre affaire. C'est bien compliqué, mais.
Oui, c'est-à-dire qu'ils auraient mis de l'huile sur le feu.
Il était présent et à Las Vegas, cette voiture derrière le cortège de Tupac, derrière la voiture de Tupac, et était présent en prenant des photos sur le toit du restaurant en face de la sortie des awards auxquels participait Biggie. Donc, ils sont quand même très, très au courant de ce qui se passe.
Dernière question, Alexandre Jordanov. Est-ce qu'on a ou pas arrêté le tireur
Le tireur de Tupac?
Oui. Celui qui était dans cette fameuse Chevrolet.
Celui qui a tué Tupac s'est fait lui-même tué dans un car wash, dans un autre règlement de compte, probablement initié par Suge Knight. Ouais. Quant à celui qui a tué Biggie Smalls, il a également été tué en face de chez lui.
On meurt rarement dans son lit, quoi, en fait. Ouais.
Donc les meurtriers, les commanditaires, non, mais les meurtriers,
Bien sûr. Comment allez-vous appeler votre film? Vous avez le titre déjà?
Il n'y a pas de titre pour l'instant.
Bon, Tupac Shakur, pour l'instant. Voilà. Bon, j'espère que c'est bien de le faire pour les États-Unis. Ce serait bien que vous le diffusiez en France quand même.
Ça ne dépend pas de moi.
Voilà, je sais. Ben, écoutez, merci en tout cas. Merci d'avoir pris ces quelques minutes cet après-midi. Merci beaucoup. On va faire une dernière pause et retrouver Olivier Cachin. Et on va maintenant revisiter toute cette histoire en essayant de mettre de l'ordre. C'est extrêmement compliqué, mais je compte sur vous pour m'aider à démêler les fils.
Vous pouvez.
L'heure du crime sur RTL.
On revient, c'est la dernière séquence de l'émission, il nous reste 4-5 minutes devant nous. Est-ce qu'on peut remettre tout ça maintenant, réemboîter un peu les pièces du puzzle, parce que on s'y perd dans ces rivalités de groupes, et puis on comprend à travers ce que vous avez dit, ce qu'a dit tout à l'heure Jordanov, c'est que on est dans un monde qui dépasse totalement uniquement celui de la musique. Quoi.
Ah bah bien sûr, là on est, c'est over the rainbow. Hein, là on est dans un monde qui est celui du show business américain, mais aussi celui de la criminalité qu'il y a dans les quartiers dont sont issus la plupart de ces artistes. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que Notorious Big, au départ, c'est un dealer de rue qui va devenir un immense artiste et qui va donc quitter ce business de rue. Tupac Shakur, on l'a dit, sa mère était une militante. Lui a une enfance assez tourmentée. Donc ce sont des gens qui se sont extraits de milieux difficiles, mais
qui racontent dans leurs chansons, d'ailleurs,
qui en parlent dans leurs
chansons, qu'ils ont vécu et ce qu'ils vivent.
Mais il y a comme une malédiction, c'est-à-dire que vous savez, il y a cette phrase qui dit on peut quitter le quartier, mais le quartier ne vous quitte jamais complètement. C'est-à-dire qu'ils sont poursuivis par leur entourage aussi. Et puis, si on parle de Los Angeles et donc de cette ville très très violente qu'est Los Angeles, il y a là-bas la culture des gangs, c'est-à-dire que dans les quartiers populaires, il y a les Crips et les Bloods. Ce sont des espèces de bandes armées. Les Bloods symbolisé par la couleur rouge, les Crips par la couleur bleue, et qui se mène une guerre qui est une guerre proche de celle de la mafia.
Ils savent pourquoi ils se battent?
C'est pour des questions de territoire. Derrière, il y a aussi des trafics de drogue. Là, on ne parle plus du tout de musique. De ce milieu-là où sont nés des grands artistes, il y a donc toujours cette violence qui est présente et qui ressort.
Et eux, ils doivent choisir leur camp?
Disons, si vous regardez par exemple les disques de Tupac Shakur, vous verrez qu'il y a une grosse prédominance de la couleur rouge. Et son patron, Suge Knight, porte toujours du rouge. C'est-à-dire qu'en fait, c'était toujours une référence cryptée aux Bloods. Donc évidemment, ceux qui sont du gang adverse vont prendre ça très très mal. Ouais. Donc cette violence qu'il y a dans les quartiers, elle va ressurgir à travers cette rivalité entre ces deux artistes que sont Tupac Shakur et Notorious Big. Et puis il y a aussi des médias qui vont s'en mêler, parce que vous comprenez, c'est une belle histoire. Il y a un rappeur de l'Est et l'autre de l'Ouest. Chacun fait des morceaux les uns contre les autres. Il faut savoir que par exemple, Tupac Shakur a fait un morceau où il a prétendu avoir fait l'amour avec la femme de Notorious Big. Par contre, Notorious Big, lui, n'a jamais fait de chanson contre Tupac. C'était vraiment Tupac qui était le plus virulent. Et puis les médias s'en sont emparés parce que ça devenait effectivement une bonne histoire, si vous voulez. Parce qu'on sait bien que les médias sont friands de ce genre de notoriété. Donc
et
tout ça a escaladé.
Il y a aussi des éléments qui émaillent leur parcours. On en a parlé très rapidement, mais un an avant d'être tué dans les circonstances circonstances qu'on a rappelées. Il est dans Tupac, il est dans un procès pour viol. Mm-hmm. Vraisemblablement d'ailleurs innocent, mais bon.
Ouais, il a toujours dit que c'était un coup monté. Voilà. Il s'est fait aussi tirer dessus.
Et il se fait tirer dessus, voilà. Voilà, déjà, on le rate, quoi, alors, une première fois.
Et alors là, cette scène est absolument incroyable. Ouais. On la raconte brièvement. Il va dans un studio d'enregistrement. Quand il arrive au rez-de-chaussée, il y a des gens qui l'attendent, qui le braquent avec des flingues, qui lui prennent ses bijoux, qui lui tirent dessus. Ouais. Il est blessé et il prend l'ascenseur quand même. Il monte dans le studio et il y a des gens qui ont raconté, les rappeurs qui étaient déjà dans la salle, qui ont raconté cette histoire, qui voient surgir Tupac ensanglanté et hurlant « On a voulu me tuer, ils ne m'auront pas, donne-moi le micro, je vais chanter ». C'est-à-dire que comme s'il était possédé par son art. C'est-à-dire que malgré le fait qu'il soit grièvement blessé, il va quand même aller au micro et chanter ensanglanté. Enfin, c'est là encore,
en disant aussi à ceux qui sont là, vous m'avez trahi.
Voilà, et évidemment, ça ne se passera pas comme ça.
Ça ne se passera pas comme ça. Voilà. Bon.
Mais Tupac est effectivement ce personnage hollywoodien. C'est pas étonnant qu'il y ait déjà eu beaucoup de choses qui aient été écrites sur lui et qu'un film soit en préparation sur l'histoire incroyable de ce rappeur mort à 25 ans. Tupac.
Et vous y croyez, vous, à la manipulation de la police, que les policiers décident comme ça froidement, montons-les les uns contre les autres, ça en fera déjà deux de moins.
J'ai toujours un peu de mal avec la théorie du complot, mais ce qui est vrai, par contre, ce qui est avéré, c'est qu'il y a effectivement des flics qui étaient payés par les patrons des maisons de disques et qui se
sorte de protection là.
Voilà, qui faisait la sécurité et qui trempait dans des affaires assez louches. Donc évidemment,
et le fait que le FBI les avait en filature est avéré apparemment.
Oui, absolument après, est-ce qu'ils ont été impliqués dans le fait, est-ce qu'ils avaient besoin qu'on les monte les uns contre les autres? Je crois que surtout Tupac était tellement, comment dire, virulent contre celui qu'il estimait être devenu son ennemi, alors qu'il était son ami au départ, rappelons-le. Ça, je pense que c'est, voilà, après peut-être que le documentaire d'Alexandre
On verra, il faudra attendre un peu, quelques mois quand même. Dernière question, Olivier Cachin, comment ça se passe actuellement? Ça s'est calmé un peu, ou le rap
alors, ça
est toujours
calmé,
quand même très écouté aux États-Unis?
C'est la musique
c'est
leader.
La musique numéro 1,
si vous voulez, le choc était tellement terrible de la mort de ces deux artistes à 6 mois d'intervalle qu'en fait il y a eu une espèce d'une prise de conscience qui fait qu'il y a toujours eu des clashs et des affrontements, mais qui sont restés verbaux. Et pour prendre par exemple Jay-Z et Nas, qui sont deux des grands rappeurs du moment, ils se sont fait la guerre, mais ils ont fini par faire un disque ensemble, ce qui est quand même mieux que de se tirer dessus.
Voilà, on peut se retrouver sur un ring aussi. C'est une suggestion qui est faite par pas mal d'auditeurs cet après-midi. Le dernier en date, c'est Christophe. Il dit, mais pourquoi Ruff et Booba se mettent pas sur un ring de boxe pour régler leurs différends, mais tous les deux, quoi.
Il en a été question.
Et il en a été question. Alors voilà, vous voyez, Christophe, vous croyez pas si bien dire. Merci beaucoup, Olivier Cachin. Merci
vous,
infiniment. Merci aussi, Alexandre Jordanov. Donc, on a entendu, on attend maintenant son film. Émission est terminée. Et nous allons retrouver dans quelques instants Flavie Flamand.